Nous sommes à chaque fois reconnaissants au Seigneur quand nous pouvons venir nous réunir et pouvons écouter sa parole. Mais plus le temps dure et plus profondément le désir en nous grandit d'expérimenter aussi ce que nous écoutons. D'expérimenter tel que nos frères et sœurs au commencement ont expérimenté Dieu. Et quand, et cela veut dire que quand nous regardons dans les Actes des Apôtres les expériences que nos frères et sœurs ont fait avec Dieu, alors nous pensons que nous avons des manquements. Avant de venir ici à la réunion aujourd'hui, je pensais réellement très profondément à cela. Comment est-ce que Dieu pourrait nous aider? À chaque fois que j'ouvre la Bible, je suis tout de suite dans les sujets de l'enseignement. C'est une chose qui m'a été donnée. Peut-être même depuis ma naissance, au moins en raison de l'appel divin, pour, dans le domaine de l'enseignement, apporter la parole du Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'une variété de services, de tâches, de ministères, pour que chaque domaine qui appartienne à l'Église et particulièrement à son édifice, que chaque domaine soit pris en compte. Quand, par exemple, je pense à mon bien-aimé frère Rousse, alors je pense à une parole de Romains 12, où il est écrit au début du chapitre, « Celui à qui le don de la correction est donné, de l'exhortation, qu'il puisse corriger et exhorter. Celui à qui il est donné, lui, à frère Rousse, il lui est donné de nous montrer le cadre de la parole et de nous ramener dans la parole pour ne pas que nous dévions à droite et à gauche. Et quand je pense au frère Schmitt, lui aussi, de nouveau, il a son domaine pour servir l'Église ici. Mais nous avons besoin encore maintenant de plus, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous avons encore besoin de plus que ça. Nous avons besoin du secours du Seigneur lui-même. Je ne sais pas si nous avons encore besoin de plus de frères avec différentes tâches, services et ministères. Nous avons besoin du donateur lui-même, nous avons besoin de Dieu lui-même qui peut se rapprocher de nous. Et maintenant, la question, comment pouvons-nous rapprocher le peuple de Dieu du Seigneur, au Seigneur? Et comment pouvons-nous faire en sorte que Dieu se rapproche de nous? Que nous puissions être rapprochés de lui et qu'il puisse aussi se rapprocher de nous. Afin que, réellement, il y ait une rencontre entre Dieu et son peuple. Vous savez, dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les jours de Moïse, il l'a, n'est-ce pas, apporté le peuple à la tente d'assignation, à la tente de révélation, et le Seigneur descendait dans la lumière, ou bien alors dans le feu, dans la colonne de feu, et parlait à tel point que même Israël, pas seulement Moïse, mais Israël, en tant que peuple élu, était conscient de la présence permanente de Dieu parmi eux, au milieu d'eux. Ils n'avaient pas besoin de se demander, est-ce que Dieu est vraiment présent ou pas? Ils le voyaient littéralement avec leurs propres yeux naturels. Alors, quand le Seigneur descendait, il savait que maintenant il est ici, il est ici, il est parmi nous, il est au milieu de nous. Maintenant il répond, maintenant il parle, maintenant il bénit. Comment est-ce que nous pouvons le savoir? Il y a beaucoup de cultes partout sur la terre. Et combien de fois il est chanté, Dieu est présent, adorons-le. Ce cantique est chanté partout. Mais où est-il vraiment présent? Est-ce qu'il est présent? Alors, s'il est présent, il se manifeste, il se révèle à nous. Alors, il nous parle et il agit. Et je crois que tous, qui nous attendons à la restitution et à la restauration de tout ce qui existait dans l'Église primitive au commencement, et comment est-ce que le Seigneur l'a promis, que vraiment maintenant nous puissions nous attendre, nous devons nous attendre à cela, nous pouvons nous attendre à cela, qu'il le fera. Avoir des cœurs ouverts, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, sans s'imaginer comment est-ce que cela va se passer, mais que cela va arriver sans nos imaginations, nos propres imaginations de toutes les manières. À chaque fois, on fait que être un obstacle aux hommes et n'ont aidé personne. Ça n'a pas été une aide, mais un obstacle de s'imaginer quelque chose. Vous savez que les scribes et pharisiens, n'est-ce pas, dans les jours de Jésus, avaient leurs propres imaginations. Comment est-ce que le Messie devrait être, ce qu'il ferait, etc. Et tout est venu différemment qu'ils l'ont imaginé. Et ça aussi, le frère Branham, aussi dans un endroit, disait, si vous pensez d'avoir ordonné les choses correctement, alors vous savez que vous êtes complètement à côté de la page. Comme homme, nous ne pouvons pas le faire parce que c'est un ordre divin que lui seul est capable d'établir jusqu'à la fin. D'un autre côté, dans les Saintes Écritures, tout est clairement ordonné divinement. Chaque chose a sa place et a son temps, et le programme de Dieu, sans obstacle, va se dérouler tel que Dieu l'a déterminé. Ce qui nous retient, ce qui nous fatigue, ou bien c'est le temps d'attente jusqu'à ce que Dieu se manifeste lui-même, n'est-ce pas? Et nous avons malgré tout, à chaque fois, le droit, quand nous nous rassemblons, d'expérimenter personnellement, encore nouvellement, Dieu. Car il a promis que là où deux ou trois sont réunis en son nom déjà maintenant, là, il est au milieu d'eux. Dieu, qui puisse nous accorder une telle assurance à lui, une telle liaison avec lui, une confiance, une attente de ce qu'il se manifeste dans toute sa puissance. En grande partie, n'est-ce pas, les choses vont pour nous ainsi, que éventuellement, peut-être que nous nous affligeons avec des reproches que nous nous fassions au lieu d'honorer Dieu par la foi, parce que Dieu est seulement honoré par la foi. Et si à la foi nous ajoutons encore, à la foi l'obéissance s'ajoute, alors Dieu sera encore plus honoré. Par l'incrédulité, nous ne pouvons pas honorer Dieu, mais par la foi, Abraham croyait Dieu, les prophètes croyaient Dieu, tous ceux qui croyaient Dieu honorait Dieu par cette foi. Et nous aussi, nous voulons croire comme le dit les Écritures. Et ne pas regarder à nous-mêmes, mais regarder au Seigneur. Lui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera aussi. En entrant, j'ai entendu frère Schmitt lire la parole, probablement, c'est quoi que c'était, Ésaïe 56, je n'ai pas entendu le verset, mais je crois qu'en l'écoutant, c'est Ésaïe 56. Je crois que tous, n'est-ce pas, nous sommes coupés à certaines époques. Chacun sait que la parole qui nous a été lue, de nouveau, concerne le millénium. Là, il est parlé du sabbat, etc. Alors, si quelqu'un viendrait et essayerait de prendre une telle parole qui est pensée pour le millénium et qui voudrait l'introduire ici pour ce temps déjà, qu'est-ce qu'il ferait par cela? Il apporterait de la discorde. Il voudrait par cela ordonner des choses et classer des choses là où elles n'ont pas leur place. Peut-être même, il voudrait peut-être établir le sabbat ou bien la circoncision. Non. Comment nous pouvons être reconnaissants de ce qu'il nous a accordé la grâce de comprendre correctement sa parole et de placer les choses à leur place, dans leur contexte. Si par exemple il est écrit ici, Ésaïe 56, verset 2, « Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal, etc. etc. » Ésaïe 56, verset 2. Je peux vous lire du dernier chapitre du prophète Ésaïe que en ce temps-là, Ésaïe 66, 23 et 24, « À chaque nouvelle lune et chaque sabbat, toute chair viendra adorer l'Éternel et que Dieu bénira et sanctifiera le septième millénaire tel qu'il a sanctifié et béni le septième jour. C'est ainsi qu'il bénira et sanctifiera le septième millénaire et que tout le peuple viendra pour adorer devant lui. » Peut-être que nous lisons cela justement du prophète Ésaïe, du chapitre 66. Ici, il est écrit à partir du verset 23. Ésaïe 66, verset 23. Il arrivera que chaque mois à la nouvelle lune et chaque semaine au sabbat, toute chair se réunira pour se prosterner devant ma face. Ainsi a parlé l'Éternel. Quand est-ce que cela aura lieu? Tel que nous venons justement de le dire, dans le millénium. Si je voulais aujourd'hui attendre la nouvelle lune et si je disais j'attends la nouvelle lune, alors qu'est-ce que vous me direz? Vous me direz non, pas comme ça, frère Franck. Alors vous voyez, tout doit être apporté et ordonné et classé là où ça a sa place, dans son contexte. À la nouvelle lune, à chaque semaine, au sabbat, chaque mois à la nouvelle lune et chaque semaine au sabbat, toute chair se réunira pour adorer le roi des rois, pour se prosterner devant sa face et chercher l'Éternel Dieu qui habitera en Sion, à Sion. Or, c'est quelque chose de merveilleux quand ainsi nous pouvons entrer dans les pensées de Dieu, dans le dessein du salut de notre Dieu et que nous pouvons y regarder. Alors, on peut se prosterner sur sa face et adorer et dire, Seigneur, comme fidèle, comme tu es grand, comme tu es fidèle, toi, qui de manière si merveilleuse, a ordonné et classé toutes choses. Dans le prophète Zacharie, il est écrit que en ce jour-là, le Seigneur sera l'unique et le seul et sera roi sur toute chair. Zacharie, chapitre 14, verset 9. L'Éternel alors sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et son nom sera l'unique. Et ça aussi, c'est une parole très merveilleuse. On pourrait aussi lire le verset 16 dans Zacharie 14. On continue à lire là. Au verset 16, là, il est écrit. Après cela, tous ceux qui resteront de toutes les nations qui avaient combattu contre Jérusalem monteront année après année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Si je pouvais aujourd'hui vous inviter à aller fêter et célébrer la fête des tabernacles, je crois que vous me regarderiez avec des grands yeux ouverts, n'est-ce pas? Vous voyez, tout en son temps, dans la relation, dans le contexte dans lequel ça a sa place. Mais je me réjouis de ce que Dieu, à la fin, en tant que le souverain, en tant que le grand et le Dieu tout-puissant, se tiendra là. Et tous les hommes, tout le peuple devra se prosterner devant lui. Tout genou se fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur et que toute chair viendra pour adorer, se prosterner devant sa face. Dans la parole que nous avons lue ici, d'Ésaïe 56, il est écrit aussi il est parlé de la maison de prière. Et remarquez-vous ici que le Seigneur s'était pris la liberté alors qu'autrefois, il était entré dans le temple et qu'il avait mis de l'ordre et qu'il avait renversé les tables et qu'un peu, il avait même donné des coups. Et alors, il a dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait une maison de voleurs. Et il était en colère concernant cela et il les a mis dehors. Et ici, il est écrit dans le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 56, verset 7. Je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices me seront agréables sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. De ce texte, il en sort clairement que le temple sera rebâti et qu'en ce temps, alors de nouveau, les holocaustes et les sacrifices seront apportés. Alors subitement, ils reconnaîtront que, en fait, le Seigneur lui-même avait été et est devenu ce sacrifice et cet holocauste qui est valable une fois pour toutes. Ma maison sera une maison de prière, sera appelée une maison de prière. Aussi, peut-être que je devrais aussi vous lire Apocalypse chapitre 11 pour que vous puissiez savoir que le temple, en ce temps-là, sera rebâti. Vous voudriez maintenant demander, mais combien de temps est-ce que cela durera encore? Ne vous inquiétez pas, c'est même possible que le temple soit déjà préfabriqué, fini et qu'il a seulement besoin d'être monté. Apocalypse chapitre 11, verset 1. On me donna alors un roseau semblable à un bâton en me donnant cet ordre. Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel des holocaustes et ceux qui y adorent. Donc, s'il doit être mesuré, ça veut dire qu'il doit être là. L'autel des holocaustes est là et ceux qui y adorent aussi. On peut même aller au prophète Daniel, que les sacrifices et les offrandes de viande seront abolis et à leur place sera dressée l'abomination de la désolation. Et combien de temps, ça c'est Daniel 9, verset 27, et combien de temps, à partir de ce moment-là, combien de temps le temps durera encore? Vous pouvez le lire exactement dans le prophète Daniel, chapitre 12, c'est écrit plusieurs fois, ce qui se passera dans ce temps. Daniel, chapitre 12, ça devrait être écrit là. Mais déjà dans Daniel 9, verset 27, il est écrit, « Et il fera une alliance ferme avec la multitude pendant une semaine d'année, et pendant la moitié de la semaine d'année, il abolira les sacrifices et les offrandes de viande et à leur place sera dressée l'abomination de la désolation. Et cela jusqu'à ce que la destruction prévue soit versée sur la désolation. » On pourra aller dans Matthieu 24 où le Seigneur, n'est-ce pas, a exposé plusieurs choses. Une fois, la destruction de Jérusalem qui a eu lieu 70 ans après Christ. Alors qu'il disait, celui qui est sur le toit, qu'il ne descende pas pour chercher ses biens, mais qu'il s'enfuit dans les montagnes, mais enfuyez-vous dans les montagnes de Judée. Je l'ai dit quelque part il n'y a pas longtemps que du livre de Josephus, l'un des plus connus des livres écrits de l'époque, il expose dans ce livre que aucun de ceux qui ont cru à ce prophète de Galilée sont restés à Jérusalem quand la ville a été détruite. Car le Seigneur avait dit, quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, alors remarquez que le temps est arrivé. Et les historiens prouvent que tous ceux qui ont cru ont quitté la ville. Aucun des vrais croyants a été trouvé dans la ville parce qu'ils ont cru à la vraie parole. Ils se sont orientés par la parole. Quand j'ai lu cela, je me suis réjoui de tout mon cœur. À chaque fois, il y a eu des hommes qui se sont attachés à la parole et qui se sont orientés par la parole. Ils ont reconnu dans leur époque que cette parole maintenant s'accomplit, ce que la bouche de l'Éternel a prononcé. Et c'est ainsi qu'ils ont échappé la destruction. Et c'est ce qui se passera encore maintenant. Beaucoup diront, « Oh, mais cela me suffit si j'ai cru, si je suis croyant. Non, cela me suffit aussi. Mais à quoi est-ce que ça pourrait nous nuire si nous soyons d'être informés de la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu? À quoi est-ce que ça pourrait me nuire si en tant que croyant, je reconnais la parole prophétique pour ce temps? Bien sûr que ça ne peut pas me nuire. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une fausse modestie et une fausse humilité si nous pouvons nous réjouir d'avoir part à toutes les paroles des Saintes Écritures qui s'appliquent à notre temps et ont été promis pour notre temps? C'est justement dans cela que est manifesté que le croyant n'est pas seulement croyant à sa propre façon, mais que le croyant croit Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Beaucoup de croyants croient ce qu'ils croient. Mais qui de tous les croyants croit Dieu? Qui croit Dieu? C'est ça la question. Pas qui croit ce qu'il croit, pas qui croit ce qu'il croit, mais qui croit des croyants là, de ceux qui ont cru là, qui entre eux croit vraiment Dieu, qui dans ce jour croit Dieu. Celui qui croit Dieu écoutera les paroles des prophètes pour ce temps. Il croira ce que les apôtres ont annoncé. Il se laissera apporter en accord avec la parole de Dieu en toutes choses. Et alors il peut parler de la croix, de la foi. Mais il y a différentes sortes de croyants et d'êtres croyants. Les vrais et véritables croyants sont la semence d'Abraham. Et ça aussi, nous l'avons lu. Galates 4, verset 28. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Laissez-moi lire cela pour que vous puissiez savoir que cela a été écrit ainsi. Ce sont des paroles qui ne sont pas inconnues de nous. Et malgré tout, ça fait une répétition fait du bien. Galates, chapitre 4, verset 28. Mais vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Pas seulement que vous ayez cru, pas seulement devenu croyant, mais enfants de la promesse. Ceux qui croient la parole de la promesse et qui ont reçu l'esprit de la promesse et qui ainsi sont apportés en conformité avec Dieu et par la parole et par l'esprit sont conduits dans toute la vérité. Il y en a qui sont satisfaits, comme je le disais déjà, qui sont satisfaits d'être croyants et d'avoir cru, d'être devenu croyant. Et là, la question est tout de suite liée à cela. Est-ce que nous sommes vraiment croyants? Avons cru bibliquement? Est-ce que nous sommes devenus croyants? Comme le dit les Écritures. Là, je pense à Paul, notre bien-aimé frère dans le Seigneur, qui par un appel divin, ici et là, voyageait et avait entrepris aussi les premiers voyages en Europe. Et subitement, il est arrivé à Éphèse. Et il a rencontré des croyants, des gens qui étaient là-bas, qui avaient cru, n'est-ce pas? Et quelle a été sa première question? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous soyez devenu croyant, depuis que vous avez cru? Et la question les a surpris. Et ils ont répondu, mais nous ne savons pas, nous ne savons même pas si le Saint-Esprit est là. Mais ils étaient croyants. Ils savaient que ça avait été promis, mais ils ne savaient pas que c'était encore. Que c'était déjà, ils ne savaient pas si l'effusion de l'Esprit avait déjà eu lieu, mais ils étaient croyants. Mais ils ne savaient pas que la promesse avait été accomplie et que l'Esprit de Dieu avait été répandu. Mais mes frères et sœurs, je ne sais pas où est-ce que nous nous trouvons spirituellement. Nous disons tous que nous sommes croyants. Mais avons-nous expérimenté que le Saint-Esprit a été déversé sur nous? Avons-nous expérimenté Dieu comme nos frères dans l'église primitive? Est-ce que nous avons expérimenté le baptême d'esprit et de feu? Avons-nous été saisis par la parole et l'esprit? Ou bien nous avons seulement écouté la parole? Alors la question continue encore. Parce que l'apôtre était étonné de voir que c'était des croyants et qu'ils connaissaient l'introduction par Jean-Baptiste et qu'ils avaient écouté la parole par lui et qu'ils connaissaient en fait la direction et à suivre et la promesse et tout. Et ensuite la question a été posée, mais comment est-ce que vous avez été alors baptisés? Et alors il a été constaté qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean. De Jean. Alors l'apôtre leur a dit, il a seulement baptisé d'eau pour la repentance, mais maintenant il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous savez ce qui est merveilleux? Il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de rébellion. Ils ont tout de suite accepté. Ils sont entrés dans la révélation de la parole de Dieu. Ils l'ont accepté. Ils ont accepté la volonté de Dieu. Ça, c'est un signe des vrais croyants, de ceux qui ont vraiment cru. Avec eux, on ne peut pas discuter. Ils ne peuvent pas être contre la vérité. Mais tout de suite, ils acceptent d'être conduits plus profondément dans la grâce de Dieu. Vous savez à quoi je pense maintenant? Je pense, dans la Bible anglaise, il est dit d'Apollos qu'il était un avocat. Il était puissant dans les Écritures. Et il pouvait comme ça repartir les choses avec précision. Il n'y avait aucun qui pouvait comme ça, n'est-ce pas, lui prendre la parole. Vous pouvez le lire dans les Écritures. Avec exactitude, il pouvait annoncer les choses concernant Jésus. Et quand Aquilas et Priscille ont apprécié, n'est-ce pas, sa prédication, comment est-ce qu'avec exactitude, il pouvait parler des choses concernant Jésus, n'est-ce pas? Et la Bible dit que l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement l'enseignement de Dieu. Un homme précis, avec exactitude, dans les Écritures. Alors deux personnes arrivent qui savent mieux les choses que lui, encore un peu plus. Ils avaient été conduits plus profondément dans les Écritures. Et ils lui ont, avec plus d'exactitude, exactement, exposé l'enseignement du Seigneur. Et déjà, il a suivi. Il s'est laissé corriger. Il n'a pas dit, mais vous n'avez pas entendu. Comment est-ce que j'ai traité le sujet avec exactitude? Comment la parole m'a été donnée? Vous qui étiez assis. Mais lui qui était en train de prêcher, maintenant était prêt à s'asseoir, à écouter deux personnes qui étaient parmi l'auditoire. Quelle grâce de Dieu! Si des gens qui peuvent parler avec exactitude dans les Écritures sont prêts à s'asseoir pour eux-mêmes écouter. Quand Dieu utilise des hommes qui étaient assis parmi l'auditoire pour lui dire quelque chose par la grâce de Dieu, cela peut exister. Cela peut exister. Et nous sommes ouverts ici. Vous pouvez vous rappeler de mon témoignage. Je crois qu'avec 20 ans déjà, j'étais exact dans les Écritures. Je pouvais exposer les choses. Le frère Borg, le frère Reinhard Helling et tous ceux qui m'ont connu déjà. À cet âge, la parole était toujours ma chose. Mais quand j'écoutais Frère Branham, alors tout était fini avec moi. Je n'ai plus porté la Bible comme ça. Autrefois, je portais toujours la Bible sous mes épaules. Sous mes épaules, partout, j'avais la Bible. Mais depuis que j'avais écouté Frère Branham, alors je ne portais plus la Bible comme ça sous les épaules. Parce que là, je savais que là, c'était un homme envoyé de Dieu avec un message pour ce temps. Et revenons à cette parole que nous avons entendue, car cela est écrit au premier chapitre, encore quelque chose de très particulier aussi pour nous. Ici, il est dit dans Ésaïe 57, verset 14, « Et il commandera, frayez un chemin, préparez une route, et enlevez toute occasion de chute pour mon peuple. » Ésaïe 57, verset 14, verset 15 maintenant. « Car ainsi a parlé le Très-Haut et Très-Exalté, qui siège éternellement et dont le nom est le Saint. J'habite dans les lieux très hauts et dans le sanctuaire et avec ceux qui ont l'esprit brisé et qui sont courbés pour ranimer l'esprit de ceux qui sont courbés et pour rafraîchir le cœur de ceux qui sont courbés. » Que Dieu puisse, par sa grâce, nous l'accorder aujourd'hui. Qu'il puisse accorder, par l'Esprit de Dieu, que nous soyons rafraîchis et qu'il apporte du rafraîchissement dans l'esprit de ceux qui sont courbés et dans le cœur de ceux qui sont affligés. Car c'est là que le Très-Haut veut et le Très-Exalté veut habiter. N'a-t-il pas dit, est-ce que ma main n'a pas créé tout l'univers? Quelle maison voulez-vous alors me bâtir? Et où serait mon lieu de repos pour moi? Le Saint et le Très-Élevé n'habitent pas dans une maison faite de la main d'homme, mais en ceux qui ont les cœurs contrits et les esprits brisés. Et pour faire quoi? Pour vivifier l'esprit de ceux qui sont brisés. Le Consolateur habite en nous. Cela a été traduit comme ça, Consolateur. Mais c'est une expression variée qui a été résumée ici. Du texte original, il est consolateur, il est avocat, il est celui qui nous soutient, il est médiateur. C'est peut-être que les traductions sont différentes, parce que dans cette parole originelle, tout est contenu là-dedans. Il console, il soutient, il secourt. Ici, il est écrit pour vivifier l'esprit brisé. C'est pour cette raison qu'il habite en nous, aussi en ceux en qui Dieu a pris sa demeure, peuvent passer dans des détresses, dans des épreuves, et alors l'esprit vient nous soutenir, nous consoler, nous édifier, nous relever et nous vivifier, nous rafraîchir de nouveau l'esprit de ceux qui sont brisés et courbés et ranimer l'esprit et le cœur de ceux qui sont courbés, pour que personne ne marche affligé. Et dans Ésaïe 57, verset 16, il est écrit ensuite, « Car je ne contesterai pas à toujours, je ne m'irriterai pas à toujours, autrement tout esprit se consumerait devant moi. Et les âmes que j'ai moi-même créées, est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? Pas éternellement, je veux me mettre en colère, m'irriter. Si Dieu voulait s'irriter éternellement, alors ce serait fini avec nous tous. Non, il ne peut pas s'irriter éternellement parce que lui, en tant que l'Éternel, il est venu dans le temps pour lui-même et lui-même est devenu homme. Pour, n'est-ce pas, faire sortir l'humanité de cette séparation avec Dieu, pour nous réconcilier lui-même en Christ, avec lui-même. Et c'est ainsi que nous voyons la parole merveilleuse accomplie, que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et ça aussi, c'est une énigme pour les gens, comment cela peut être possible. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne voulons pas non plus expliquer les choses. Paul, un tel grand homme de Dieu, n'a pas expliqué la divinité. Il a dit, « Grand est le mystère de la piété. Dieu est manifesté dans la chair, justifié en esprit, prêché aux hommes, reçu dans la foi et monté au ciel dans la gloire. » Pas d'explication, seulement un statement pour utiliser un mot anglais, exposé selon les faits. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, les sages, soi-disant, sont occupés à classer la divinité, à expliquer. Ils peuvent encore utiliser 1000 ans à cela et ils ne le pourront pas. C'est une révélation. Et nous devons fouler le sol de la révélation avant de pouvoir avoir accès à la révélation de Dieu en Christ. Et le plus grand, ou bien alors la plus grande résistance que nous pourrions rencontrer, elle est en nous, c'est-à-dire dans notre tête. Mais si nous pouvons suivre les traces de Dieu, les empreintes de Dieu et reconnaître les promesses qu'il a données, alors elles nous seront à ce moment-là. Elles devront nous être révélées à ce moment-là. Il n'y a aucun homme qui pourrait vraiment suivre le Seigneur et rester dans les ténèbres, ce n'est pas possible. Car il est écrit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Les vrais disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur, de suivre le Seigneur, d'être un disciple, ça inclut que nous avons la lumière de la vie et que nous ne restons pas dans les ténèbres. Et de nouveau, là, nous pouvons revenir à cette parole merveilleuse de Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le pays de Zabulon et le pays de Naphtali ont vu une grande lumière. La Galilée des païens. Pourquoi? parce que le Seigneur était parmi eux, était au milieu d'eux. Il est la lumière du monde. Il leur a apporté la parole. Lui-même a dit, n'est-ce pas, « Je suis la lumière du monde. » Il est la lumière et il le demeure. Et il le demeure. Et celui qui le suit ne peut pas rester dans les ténèbres, dans l'ignorance. Il aura la lumière de la vie et il sera conduit de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Frayez un chemin, préparez une route. Enlevez toute occasion de chute pour mon peuple. Ésaïe 57, verset 14. Là, mon âme crie et je dis, Seigneur, laisse-moi savoir comment cela doit être fait. Ici, il est dit, enlevez toute occasion de chute pour mon peuple. Comment est-ce que cela doit être fait? Pourquoi? Parce que Dieu veut se manifester. Il veut se faire connaître. Ici, on doit enlever tout obstacle, toute occasion de chute. Si aujourd'hui, on doit mettre de l'ordre, enlever. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une visite et la dame me disait, mais s'il vous plaît, ne regardez pas autour, ne regardez pas ici autour de vous. Et c'était aussi bien qu'on ne regardait pas autour de soi parce que c'était vraiment pas en ordre, c'était pas rangé. Mais quand les choses doivent être rangées, alors cela veut dire qu'il ne peut pas avoir des choses qui soient là où elles n'ont pas leur place d'être. C'est-à-dire que le mot désordre veut dire que les choses ne sont pas rangées à leur place. Pour toute chose, il doit avoir une place. Donc, faire entrer ce qui n'a pas sa place à l'extérieur et faire sortir ce qui n'a pas sa place à l'intérieur. Mettez de l'ordre. Enlevez toute occasion de chute pour mon peuple. Tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi a parlé le Très-Haut. Verset 15, Ésaïe 57. Et très exalté qui siège éternellement et dont le nom est le Saint. J'habite dans les lieux très hauts et dans le sanctuaire et avec ceux qui ont l'esprit brisé et qui sont courbés pour ranimer l'esprit de ceux qui sont courbés et pour rafraîchir le cœur de ceux qui sont courbés. Nous en avons besoin aujourd'hui tous. Je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un parmi nous qui n'aurait pas besoin d'un nouveau rafraîchissement. Et alors, notre Seigneur dit, aussi par le prophète Ésaïe, et dans le Nouveau Testament aussi, il dit, il ne brisera pas le conduit plié, il n'éteindra pas la mèche fumante. Non, bien au contraire, il vivifiera de nouveau le cœur de ceux qui sont brisés et courbés, et il portera le droit. Établira le droit. Laissez-moi lire cela dans Ésaïe 42, au verset 2, ici il est écrit. Ésaïe 42, verset 2. Et il ne poussera pas de cri, et ne fera pas de bruit, et sa voix ne se fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le conduit plié. Il n'éteindra pas la mèche fumante. Il fera connaître fidèlement le droit. La plupart ont seulement lu cette parole dans le Nouveau Testament, peut-être dans l'évangile de Matthieu ou bien de Luc. Mais c'est déjà écrit ici dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est ici la force que Dieu nous a donnée par sa grâce que nous puissions ainsi, n'est-ce pas, considérer l'Ancien Testament. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me le disait, qui parle par téléphone ou bien qui l'a écrit. Il disait, frère Franck, ce qui est merveilleux et puissant dans les brochures que j'ai lues, ce n'est pas seulement un exposé, mais il est prouvé que l'Ancien et le Nouveau Testament sont exacts et en harmonie ensemble. Et cela m'a touché, cela m'a convaincu. C'est de ça qu'il s'agit. L'Ancien et le Nouveau Testament sont en harmonie, sont en accord total, parfait. Il y en a qui disent que Dieu était dans l'Ancien Testament, le Dieu méchant, coléreux, mais dans le Nouveau Testament, il est différent. Non, il est le même, mais avec la différence que dans le Nouveau Testament, un sacrifice a été apporté à Golgotha pour ôter le mur de séparation et pour ôter la séparation et l'inimitié. Et c'est pour cette raison que Dieu s'est tourné vers nous, comme Paul, comme Moïse pouvait dire. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face, mais tu verras mon dos. Car personne qui voit ma face peut vivre. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a tourné sa face. Il a tourné sa face vers nous, et cela en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est celui, et il était celui en qui Dieu s'est révélé et manifesté. Dieu, selon sa nature, est esprit. Et c'est pour cette raison qu'il peut être présent partout, en tout temps, au même moment. Mais il a été manifesté en Jésus-Christ. Il s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur, en forme visible, dans une forme humaine, corporelle, en tant que Dieu avec nous, Emmanuel, dans une forme corporelle. La plupart sont de cette conviction que Dieu, n'est-ce pas, a mis ses mains au ciel comme ça dans son sein et a laissé souffrir Jésus sur la terre. Non, ce n'était pas comme ça. Quoique Dieu, comme esprit, était au ciel et qu'en Christ, il était aussi dans toute sa plénitude, malgré tout, il a pris part à ce qui s'est passé. Car Christ était Dieu manifesté en forme humaine. Quoique là aussi, nous ne pouvons pas aller plus profond. Sinon, nous pourrions rester des heures ici pour observer, considérer cela. Il y a assez de versets bibliques dans les évangiles, spécialement, qui, n'est-ce pas, montrent Christ à côté de Dieu, comme celui qui prie, qui lutte, qui pleure en tant que fils de l'homme. Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le fils de l'homme, Jésus-Christ. Jésus, donc le oint, c'était le Seigneur qui avait pris une forme de serviteur, Knecht. Oh, si les gens pouvaient voir ça une fois, que le Dieu Tout-Puissant s'est extériorisé, qu'il devait devenir serviteur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se laisser servir, mais pour servir à 100%. Il est devenu homme. Il est né même dans ce monde. Et là, l'Écriture de nouveau s'accomplit. Et la parole est devenue chair, est devenue homme et a habité parmi nous. En lui, Dieu a fait le commencement de la nouvelle déclaration de fils et de fille de Dieu. On doit, quand on considère le dessein de salut de Dieu, on doit au moins le regarder de deux côtés. C'est-à-dire, du côté de Dieu à nous et ensuite de notre côté à Dieu. Et ensuite, la rencontre entre Dieu et l'humanité en Christ. La voir et reconnaître que ici, c'est l'humanité et la divinité qui sont représentées ici en une seule personne, Dieu et homme. C'est-à-dire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et alors là, n'est-ce pas, notre cœur exact, il n'y a pas ici de contradiction. De contradiction. Ici, je vois la révélation, je vois la confirmation, la variété des pensées de Dieu qui appartiennent à tous, à cette révélation. Et tout ce grand plan de Dieu avec l'humanité pour l'exécuter. Le Seigneur est devenu homme. Comme homme, il priait. Comme homme, il jeûnait. Comme homme, il était fatigué et dormait et avait faim. Comme homme, il avait des attributs humains. C'est peut-être qu'il est écrit qu'il a apparu entièrement comme un homme pour ensuite être un souverain sacrificateur fidèle pour les hommes qui viendraient à Dieu, pour qu'ils puissent les comprendre et compatir à leur faiblesse. Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur était dans le jardin d'Éden, dans un corps spirituel, comment est-ce qu'il aurait pu ressentir les souffrances de l'homme? Son esprit était un esprit. Son corps était, pardon, un corps spirituel. Comment il pouvait ressentir les douleurs du corps de chair? C'est pour ça que dans Ésaïe 53, ce chapitre, n'est-ce pas, qui développe les douleurs du Seigneur. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ici, il est montré dans ses douleurs. Et ensuite, il nous a dit que cela a eu lieu à cause de nous. La condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Il est comme homme, selon la chair, il est mort pour lui, toute l'humanité. en esprit de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Il a été, donc par l'esprit de Dieu, il a été vivifié pour que nous aussi, en tant qu'hommes, nous puissions être vivifiés par l'esprit de Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ dans tes morts. Pardon, réconciliation et la nouvelle naissance et tout ce qui appartient à cela. Celui qui veut disputer, qui peut disputer là. Celui qui veut se disputer là-dessus, qui puisse le faire. Et ceux qui veulent les semencer, qui puissent les semencer avec Dieu. Et je n'appartiens pas à ceux qui se disputent sur certains mots de la Bible. J'appartiens à ceux qui expérimentent Dieu et qui ont part à ce qu'il a fait pour toute l'humanité. Qu'il puisse tous ensemble nous bénir et nous secourir et nous soutenir. À ce que ce ne soit pas seulement que nous comprenions correctement les paroles de l'Écriture et avec l'aide de Dieu, classer tout dans le contexte exact, qu'il puisse aussi nous accorder la grâce dans toute sa plénitude, d'expérimenter sa grâce dans toute sa plénitude, d'expérimenter encore une fois ce que cela veut dire. Celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce, et celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. D'expérimenter ça dans tout son sens, que nous puissions ensemble expérimenter ce que cela veut dire dans la réalité, dans la pratique, pas seulement dans la prédication, l'avoir entendu, je fais grâce à celui que je fais grâce, miséricorde à celui que je fais miséricorde, mais d'avoir expérimenté ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui à qui Dieu fait grâce, il lui fait grâce. Et celui à qui il fait miséricorde, il lui fait miséricorde. Que nous puissions expérimenter cette miséricorde de Dieu et cette grâce de Dieu dans toute sa plénitude, sa largeur, sa hauteur, sa grandeur, sa profondeur, sa largeur, expérimenter Dieu ainsi et ainsi comme des gens qui ont reçu la grâce de Dieu, rendre témoignage de la miséricorde de Dieu. Et alors que aussi par la grâce de Dieu, derrière ce témoignage que nous rendons, que notre vie aussi se tienne, qui aussi s'accorde aux témoignages et aux expériences comme témoignage de notre vie, qui peut se tenir derrière le témoignage pour que les paroles et les actes soient en accord, soient conformes et que le Seigneur, tel qu'il a promis, puisse être avec nous jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à qu'il revienne pour prendre les siens auprès de lui. Et à cela, nous voulons et nous allons appartenir et nous allons compter pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire. Lui, le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse vivifier de nouveau aujourd'hui, en cette heure, l'esprit de ceux qui sont brisés et courbés et le cœur de ceux qui sont affligés et contrits, qu'il puisse de nouveau redresser le conduit plié pour que l'huile de nouveau puisse normalement couler. Vous savez, si un conduit est plié, alors ça veut dire que donc le courant ne peut pas passer, l'huile ou bien l'eau, quoi que ce soit qui passe. Mais quand c'est redressé, quand c'est droit, alors de nouveau, l'huile peut alimenter la lampe et alors elle peut briller. Hein? On peut avoir de l'huile, mais si le conduit est plié, alors l'huile ne peut pas passer. Alors, que Dieu puisse accorder sa grâce, qu'on ait assez d'huile, que tout soit redressé, que la lampe soit alimentée et qu'on ait de la réserve pour que rien ne nous manque en ce jour. Nous croyons que le Seigneur visitera son peuple et que de son église et de son peuple, il rassemblera des gens qui prient comme il était créé. Femme, le jour arrive où on n'adorera ni à Jérusalem ou bien sur la montagne sainte, mais où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. Imaginez-vous ce que cela serait si aujourd'hui, dans cette heure, nous pourrions pratiquer cela, d'adorer Dieu en esprit et dans la vérité, dans le sens même de ce que cela veut dire. Alors, sa maison serait une maison de prière, réellement, une maison de prière. Des prières monteraient au trône de Dieu. Et nous tous, nous repartirions heureux et joyeux. Je crois qu'il est fidèle. Je crois qu'il n'a pas seulement donné des promesses, mais je crois qui les accomplit et qui veut les accomplir. Et c'est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut redresser, n'est-ce pas, le conduit plié, rallumer la mèche qui fume et faire revivre et rafraîchir et vivifier l'esprit brisé et contrit, le cœur contrit, comme il est écrit. Sinon, les âmes que j'ai créées devraient, n'est-ce pas, disparaît devant moi. Non, Dieu ne nous a pas créés pour ensuite périr. Non, il nous a pas, il nous a appelés, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, pour que nous puissions de nouveau et disparaître. Non, il nous a vivifiés de nouveau. Et il a rafraîchi et renouvelé notre confiance et notre courage. Aujourd'hui, dans cet endroit, aujourd'hui que cela arrive, que cela soit nos expériences dans la pratique. Pas seulement que cela soit écrit. Et remercier le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Il accomplira tout ce que nous lisons aussi en toi. Accepte-le comme promesse. Accepte ces choses comme une parole directe du Seigneur avec toi, à toi. Sans toi concerné et dit Seigneur, aujourd'hui, c'est à moi que tu m'as parlé directement. La parole était adressée à moi. Je l'accepte maintenant. Seigneur, me voici. Aide-moi par ta grâce. Fais ce que tu as dit. Je te remercie pour cela. Amen.